de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Sejuritel bonsoir, voici le journal, nous commençons avec les titres. Président Jokowi a nommé 12 ambassadeurs indonésiens dans des pays amis. Président Jokowi a reçu la lettre de créance de 8 ambassadeurs des pays amis. République d'Indonésie veut être un médiateur dans la situation de conflit ukraino-russe, a affirmé ministre de la Défense. Sri Mulyani estime que la coopération mondiale est nécessaire pour faire face au changement climatique. Le ministre des Affaires étrangères a rapatrié 9 victimes du crime de traite des personnes de la Birmanie. Vice-président indonésien estime que la Coupe du monde U17 se déroulera bien au milieu des étapes électorales. Le café typique d'Indonésie a enregistré un potentiel de transactions de 306 milliards de roupies en Grèce. Voici le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a inauguré lundi 12 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires pour les pays amis au Palais d'État de Jakarta. Les 12 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui ont été nommés sont entre autres Tengku Faizasyah en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie auprès du Royaume de Norvège, servant simultanément l'Islande, basé à Oslo, Michael Trias Kuncahyono, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie en le Saint-Siège, situé au Vatican. En outre, Ahmad Rizal Purnama en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie auprès de la République de Turquie basée à Ankara. Le président Joko Widodo a reçu lundi les lettres de créance de 8 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires des pays amis au Palais Merdeka à Jakarta. La procession pour la remise des lettres de créance a commencé en jouant des hymnes nationaux de chaque pays ami après l'arrivée des ambassadeurs au Palais Merdeka. Les 8 ambassadeurs des pays amis qui ont été reçus par le président comprenaient Dorcas Makgato, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire LBBP Botswana en République d'Indonésie, Tumur Amarsana, ambassadeur de LBPP Mongolie en République d'Indonésie, Herman Pule Diamond, ambassadeur de LBBP Namibie en République d'Indonésie, en outre, Datuk Syed MD Hasrin Syed Husin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire LBBP Malaisie en République d'Indonésie. La remise de lettres de créance a marqué le début de la mission officielle des ambassadeurs en Indonésie. Le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, a déclaré que l'Indonésie voulait être un médiateur et une partie pour combler le conflit entre l'Ukraine et la Russie. La déclaration de Prabowo a été transmise après une rencontre avec le président Joko Widodo au complexe du palais présidentiel à Jakarta lundi. Prabowo a déclaré que l'Indonésie continue de prêter une attention particulière à la situation mondiale, y compris l'évolution rapide du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il a confirmé que l'Indonésie était prête à servir de médiateur dans les conflits ukrainiens et russes. Il a déclaré qu'il préparerait un rapport détaillé au président Joko Widodo sur la situation actuelle en Ukraine et en Russie. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a estimé que la coopération mondiale était nécessaire pour faire face au changement climatique, car le gouvernement ne peut pas travailler seul. Une collaboration est nécessaire en termes de financement, de technologie et d'expertise pour parvenir à une transition juste et abordable pour tous. C'est ce qu'a déclaré Sri Mulyani dans une série d'activités au sommet de Paris de 2023, citée dans une déclaration officielle à Jakarta lundi. Actuellement, selon Sri Mulyani, de nombreux pays en développement ont des limites en matière de financement de la lutte contre le changement climatique. Par conséquent, le soutien du système financier mondial, y compris de la Banque multilatérale de développement, est nécessaire pour combler le déficit de financement, en particulier pour les pays en développement. En dehors de cela, des mesures concrètes de la part des pays développés sont nécessaires de toute urgence pour aider à financer l'action climatique, notamment en respectant un engagement de 100 milliards de dollars américains par an qui n'a jusqu'à présent pas été tenu. Le ministère des Affaires étrangères a demandé la libération et le rapatriement de 9 citoyens indonésiens WNI victimes du crime de traite des personnes TPPO de la Birmanie via la Thaïlande. La libération et le rapatriement des citoyens indonésiens lundi ont été en travail conjoint entre l'ambassade d'Indonésie à Yangon et l'ambassade d'Indonésie à Bangkok avec le soutien du gouvernement thaïlandais et de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a déclaré lundi dans un communiqué écrit qu'auparavant, l'ambassade d'Indonésie à Yangon a reçu des plaintes déposées par 9 citoyens indonésiens piégés dans une zone de conflit armé à Miyawadi, en Birmanie. Il était déclaré que l'ambassade d'Indonésie à Bangkok et la diaspora indonésienne à Meso ont accompagné le processus d'entretien avec les citoyens indonésiens. Les résultats de l'examen effectué par l'appareil ont révélé que les citoyens indonésiens étaient indiqués comme victimes de TPPO. Le vice-président Ma'ruf Amin estime que la Coupe du monde U17 en Indonésie se déroulera bien, même si elle se déroule en pleine phase électorale. Cette conviction a été transmise par le vice-président Ma'ruf Amin lors d'une visite de travail à Kebumen dans le centre de Java lundi. On sait que la Fédération internationale de football, FIFA, a officiellement désigné l'Indonésie comme hôte de la Coupe du monde U17 2023. Le prestigieux événement de football devrait se tenir du 10 novembre au 2 décembre 2023, simultanément avec la tenue des étapes électorales. Selon le vice-président, la mise en œuvre de l'U17 et la mise en œuvre des étapes électorales peuvent bien se dérouler avec la participation et la coopération de toutes les parties concernées. Le vice-président a demandé que les préparatifs des élections n'empêchent pas l'Indonésie d'avoir une excellente occasion de montrer ses capacités sur la scène internationale de football. Le café de spécialité indonésien a enregistré une transaction potentielle de 20,36 millions de dollars américains ou 306,04 milliards de rupiah lors de l'exposition mondiale du café WOC d'Athènes 2023 qui s'est tenue récemment à Athènes en Grèce. La directrice du développement des exportations de produits primaires, Mary Mariati, dans sa déclaration écrite à Jakarta, a déclaré lundi que le pavillon indonésien présentait des représentations de café de diverses régions telles que Gayo, Sumatra, Java, Bali et Toraja, dont l'une d'elles consistait d'activités de dégustation de café qui a réussi à convaincre les visiteurs. Selon Mary, la cohérence de la promotion du café de spécialité indonésien par gouvernement pour encourager une augmentation de la valeur des exportations de produits de café vers le monde. Ce résultat, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire. Donc, le titre est Le train à grande vitesse Jakarta-Bandung, un nouveau chapitre dans le monde des transports en Indonésie. Le monde des chemins de fer indonésiennes connaît un nouveau chapitre. Après une longue attente, le train à grande vitesse Jakarta-Bandung, KCJB, a finalement été testé jeudi dernier, 22 juin. En plus de la vitesse offerte de 355 km par heure, le train à grande vitesse offre également des installations luxueuses et un confort ainsi qu'une sécurité pour leurs passagers. KCJB devrait commencer à fonctionner le 18 août 2023. Le ministre de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut B. Panjaitan, dans sa déclaration jeudi 22 juin, a déclaré que plus tard, le train à grande vitesse Jakarta-Bandung fonctionnerait 68 fois par jour avec une moyenne de 600 passagers en un voyage. KCJB, qui compte 4 gares, à savoir la gare Halim Jakarta, la gare Karawang, la gare centrale de Padalarang et la gare Tegaluar, sont présentes en tant que mode de transport intégré à d'autres modes de transport. Ce projet de transport est inclus dans le projet stratégique national PSN qui a été construit à travers de la coopération de l'Indonésie et de la Chine. Selon le responsable de la communication d'entreprise de Kereta Api Indonesia China ou KCIC, Société Anonyme, Emir Monti, cette infrastructure est le premier train à grande vitesse de la région de l'Asie du Sud-Est doté d'une technologie sophistiquée. Le KCJB a démarré le 21 janvier 2016. Auparavant, le plan de projet KCJB avait été soumis par le gouvernement en juin 2015. Initialement, le projet devait être achevé en 2018. Cependant, cet objectif n'a pas été atteint et a continué de subir des reports. Ainsi, le coût de construction de cette infrastructure a gonflé de 1,2 milliard de dollars américains, soit environ 18,2 millions de roupies. Le train à grande vitesse Jakarta-Bandung a en effet changé la face du monde ferroviaire indonésien. Comme il y a plusieurs années, lorsque le train était le mode de transport préféré des gens avec des prix de billets bon marché et des conditions loin d'être confortables. L'état des trains indonésiens s'améliore de plus en plus, notamment avec le train à grande vitesse Jakarta-Bandung qui est bien sûr beaucoup plus moderne, rapide et confortable. La distance entre Jakarta et Bandung est d'environ 173 km, ce qui prend généralement 3 à 4 heures, mais peut être raccourci à seulement 32 minutes. Bien sûr, cela peut faire gagner du temps et c'est le bon choix pour les utilisateurs de transport qui ont besoin de temps rapide pour se rendre à destination. C'est du temps, c'est le commentaire pour ce soir.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo. D'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et ses enregistrements dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui va commencer avec l'événement du 27 juin 1947. Le général Sudirman a été nommé en tant que commandant en chef de l'armée nationale indonésienne à Yogyakarta. Le 27 juin 1947, le général Sudirman a été nommé par le premier président Sukarno en tant que commandant en chef de l'armée nationale indonésienne TNI à Yogyakarta. Dans l'histoire de la lutte de la République d'Indonésie, il a été enregistré comme le premier et le plus jeune commandant en chef et général de la République d'Indonésie. À l'âge de 31 ans, Sudirman a été devenu général. Malgré une grave tuberculose pulmonaire, il est resté en guerrière dans la guerre pour défendre l'indépendance de la République d'Indonésie. Le 29 janvier 1950, il meurt à cause de la tuberculose à l'âge de 34 ans. Il est enterré dans le cimetière des héros de Kusuma Deta à Semaki, Yogyakarta. Passons maintenant à l'événement du 27 juin, journée de l'unité nationale du Tadjikistan. Après la séparation du Tadjikistan de l'Union soviétique en 1991, en mai 1992, la guerre civile entre diverses factions au Tadjikistan a éclaté et a duré 5 ans. Le 27 juin 1997, le président Emomali Rahmon a signé un accord de paix pour mettre fin à la guerre civile. L'accord de paix est considéré comme l'un des documents historiques les plus importants au Tadjikistan, car il a non seulement mis fin à la guerre, mais a également permis au Tadjikistan de développer une politique plus démocratique. Jusqu'à présent, le 27 juin est célébré comme la journée de l'unité nationale du Tadjikistan et devenu un jour férié. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises, MPME. La Journée internationale des MPME a été marquée par la déclaration de la conférence du Conseil international des petites entreprises, ICSB, en 2016. Lors de la 74e séance plénière des Nations Unies, le 6 avril 2017, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 27 juin comme journée des micro, petites et moyennes entreprises avec la résolution numéro ARES 71 de 179. La communication vise à sensibiliser à la contribution extraordinaire des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, à la réalisation des objectifs de développement durable, ODD, des Nations Unies. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Ajal menjemputku, takkan pernah ada sesalku untuk menunggumu. Aku harus tetap menunggu hingga nanti aku berbaring sampai mati. Aku akan tetap menunggumu. Ingin ku gapai bulan dan ku petik bintang. Ingin ku berikan semua hanya untukmu, agar kau tahu besarnya cintaku kepada dirimu. Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu. Ingin ku berikan sisa waktuku dan sisa umurku. tetap akan tetap menunggumu. Ingin ku gapai bulan dan ku petik bintang. Ingin ku berikan semua hanya untukmu, agar kau tahu besarnya cintaku kepada dirimu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée Soutenant l'adhésion à part entière à l'ASEAN. L'Indonésie organise un programme de stage pour les fonctionnaires de Timor oriental. Vous êtes avec moi, Audrey. Sagittaire, l'Indonésie a fourni un programme de renforcement des capacités sous la forme d'un programme de stage pour 30 appareils civils aux fonctionnaires d'État du Timor oriental dans les ministères ou agences nationales, soutenant les organismes sectoriels de l'ASEAN. Ce programme fait partie de la chaire indonésienne de l'ASEAN en 2023 et constitue une forme de soutien à l'adhésion du Timor-Leste au Timor-Oriental à l'ASEAN. Le programme qui se déroulera de juin à novembre 2023 vise à accroître la compréhension de l'appareil civil de l'État du Timor-Leste au Timor-Oriental concernant les mécanismes, les procédures de travail, les processus décisionnels et les structures organisationnelles de l'ASEAN grâce à une implication directe dans diverses activités et réunions organisées par l'Indonésie en tant que président de l'ASEAN 2023. Les participants sont les fonctionnaires de Timor oriental ou Timor-Leste qui ont réussi le processus de sélection et viennent de divers ministères ou institutions dans les trois piliers, sécurité, politique, économie et socioculture. Les participants à la première partie du programme de stage ont suivi une série d'activités d'orientation et de familiarisation au sein de la Direction générale de la coopération de l'ASEAN et de la Direction générale de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique. Ministère des Affaires étrangères. La série de programmes d'orientation et de familiarisation comprend des rencontres et des écoutes directes, des présentations avec des officiers des unités du deuxième échelon. En outre, lors des activités de familiarisation et d'orientation, les 13 juin 2023 et 20 juin 2023, les apprentis de fonctionnaires du Timor oriental ont également eu l'occasion de rendre une visite de courtoisie au directeur général de la coopération ASEAN du ministère indonésien des Affaires étrangères, Siddharto R. Suryodipuro. pour le premier et le deuxième groupe de participants. Siddhartha R. Suryadipuro a saisi cette occasion pour fournir une compréhension approfondie de l'expérience de l'Indonésie en jouant un rôle central dans l'ASEAN et comment gérer la coordination entre les ministères et les institutions au niveau national pour soutenir ce rôle au niveau régional. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN a également brièvement partagé des informations relatives aux fonctions et rôles importants joués par le secrétariat national de l'ASEAN, en plus d'obtenir des informations de fond au sein du ministère des Affaires étrangères. Les participants ont également reçu des informations sur le mécanisme de l'ASEAN en visitant et en rencontrant des responsables du secrétariat de l'ASEAN et le représentant par mon nom de la République d'Indonésie auprès de l'ASEAN pendant la période du 13 au 21 juin 2023. Au cours de l'orientation de fond, les participants ont également eu l'occasion de connaître de plus près le complexe de bureaux du ministère des Affaires étrangères. Cette occasion a été utilisée pour connaître l'histoire et les fonctions de divers bâtiments pour soutenir les activités diplomatiques de l'Indonésie. De plus, après la fin des activités d'orientation et de familiarisation, les participants ont été répartis entre différents ministères et l'institution supporteur des organes sectoriels de l'ASEAN pour effectuer des stages selon un calendrier prédéterminé. À la fin de la période de stage, les participants feront plusieurs recommandations à la suite du programme de stage qui sera mis en œuvre au Timor-Oriental dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route pour l'adhésion à part entière du Timor-Oriental ou Timor-Leste à l'ASEAN. Bon, chers joueurs, c'est tout. Mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sekarang bawa kau tak bahagia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la cascade de Wekacura, située à Sumba, dans la province de Nusa Tenggara Est. L'île de Sumba possède une superficie de 10 710 km² et incluse dans la province de Nusa Tenggara Est. Cette île a une variété de beauté naturelle qui attire les touristes. L'un d'entre eux est la cascade de Wekacura qui est située dans la région du barrage de Waikelo Sawah, le village de Tematena dans la région du sud-ouest de Sumba. Ce site touristique se trouve à environ 12 km de Tambolaka, la capitale de la région du sud-ouest de Sumba. La cascade de Wekacura est une cascade en terrasse. Son emplacement est assez unique, car elle est située au milieu des rizières avec des eaux turquoise claires qui ajoutent à la beauté et à la fraîcheur de la terre de Sumba. Les eaux qui coulent de Wekacura proviennent de la source Kero 9 qui n'est pas loin de cette cascade. La hauteur de la cascade n'est que d'environ 2 mètres avec des contours en terrasse et rassemble à une piscine qui est connecté de haut en bas. D'une hauteur, les marches et l'écoulement de l'eau sont bien visibles, ainsi que l'eau turquoise claire. Autour de la cascade de Wekacura, il y a aussi des vues et des spots photos très instagrammables. Si vous souhaitez visiter la cascade de Wekacura, il est conseillé de venir avec un guide touristique ou des résidents locaux afin de trouver des endroits sûrs où aller. Et n'oubliez pas d'utiliser des chaussures confortables parce qu'il y a des marches rocheuses glissantes autour de la cascade. Vous pouvez profiter de la magnifique beauté naturelle. Vous pouvez également être créatif avec des photos captivantes à la cascade. Vous obtiendrez une expérience qui peut fournir des souvenirs inoubliables. Chers amis, c'était magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé La cascade de Wekacura, situé à Sumba, dans la province de Nusa Tenggara Est. Merci à tous, à bientôt.
Nila anugerah.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Sama Historis Dengan. Sama Historis Dengan. En français, est aussi historique que. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Sama Historis Dengan. Sama Historis Dengan. Est aussi historique que. Cette conversation se déroule entre crise et une guide touristique qui parle de la mine de charbon d'Ombilin à Sawahlunto. Bonne écoute.
Stasiun kereta api pengangkut batu bara di tambang batu bara Ombilin ini sangat bersejarah.
Situs tambang ini sama historis dengan tambang batu bara Walonia di Belgia. Begitu menurut brosur ini.
Betul, itulah istimewanya.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulé « Sama historis dengan ».« Sama historis dengan » est aussi historique que. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Situs, situs, site, tambang, tambang, mine. Sama historis dengan. Sama historis dengan. Itu si historik ke. Tambang batu bara. Tambang batu bara. Mine de charbon. Situs tambang ini sama historis dengan tambang batu bara Walonia di Belgia. Situs tambang ini sama historis dengan tambang batu bara Walonia di Belgia. En français, ce site minier est aussi historique que la mine de charbon de Wallonie en Belgique. Stasiun. Stasiun, gare. Kereta api. Kereta api, train. Pengangkut. Pengangkut, transporteur. Bersejarah. Bersejarah, historique. Brosur, brosur, brochure. Istimewa, istimewa, spécial. Chers amis, au cours de la conversation, vous avez entendu la phrase « Situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Walonia di Belgia ». Situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Walonia di Belgia. Ce site minier est aussi historique que la mine de charbon de Wallonie en Belgique. Il y a dans ce discours l'expression sama historis dengan. Sama historis dengan. Aussi historique que, qui compare les caractéristiques historiques entre le site minier d'Ombilin et le site minier de Wallonie. Pour exprimer une comparaison entre deux choses identiques, vous pouvez utiliser l'expression sama kata sifat dengan. Sama kata sifat dengan. Aussi adjectif que. Entre les deux choses comparées. Chers amis, maintenant, écoutons un autre exemple d'expression pour comparer deux choses qui se ressemblent. Sama tua dengan. Sama tua dengan. Aussi vieux ou vieille que. Chris sama tua dengan Sortauli. Chris sama tua dengan Sortauli. Chris est aussi vieux ke Sohtauli. Sama tinggi dengan. Sama tinggi dengan. Aussi grand que. Chris sama tinggi dengan ayahnya. Chris sama tinggi dengan ayahnya. Chris est aussi grand que son père. Chers amis, la mine de charbon d'Ombilin à Sawalunto a été désignée par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial en 2019. Auparavant, les temples de Borobudur et de Prambanan avaient été désignés comme site du patrimoine mondial en 1991. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Stasiun kereta api pengangkut batubara di tambang batubara Ombilin ini sangat bersejarah.
Situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Walonia di Belgia. Begitu menurut brosur ini.
Betul, itulah istimewanya.
Mon cher Joëtar, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo. D'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir les auditeurs, cette fois-ci, je vous donne une chanson malaise intitulée Senandung Batang Hari, chantée par M. Hafiz. Cette chanson a été composée par Amri. Conformément au titre Senandung Batang Hari, cette chanson raconte de Batang Hari, l'un des districts de la province de Jambi. Dans les paroles, on décrit que la ville de Batang Hari est un pays magnifique et civilisé que l'on n'oubliera jamais pour le reste de sa vie. Bon, chers auditeurs, voici Senandung Batang Hari de M. Hafiz. Bonne écoute!
Thank you.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.